de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le ministre des Affaires étrangères Malki a bien accepté le soutien des dirigeants africains aux droits des Palestiniens. Le pape François a exhorté l'armée birmane à libérer les prisonniers politiques. Les étudiants vietnamiens apprennent l'indonésien en ligne. Un sous-marin japonais et un navire privé s'écrasent dans le Pacifique. Le chômage en Malaisie a augmenté de 4,8%. Le Royaume-Uni ouvre un programme de soutien aux femmes entrepreneurs indonésiennes. L'immigration indonésienne détient les passeports de 18 équipages de navires de croisière étrangère à Aceh. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Riyad Malki, s'est félicité lundi des dernières déclarations du 34e sommet de l'Union africaine où les dirigeants africains ont renouvelé leur soutien absolu à la cause palestinienne. Malki a également salué le soutien des dirigeants africains à une solution à deux États aux frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Il a également apprécié le rejet par les dirigeants africains des politiques racistes d'Israël et des politiques de nettoyage ethnique visant à consolider l'annexion par l'Israël des terres palestiniennes occupées en 1967, notamment Jérusalem. Les dirigeants africains ont réaffirmé dimanche que toutes les colonies israéliennes établies dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est et le Golan syrien, étaient illégales. Lundi, le pape François a exhorté les dirigeants militaires birmans à libérer les prisonniers politique et à remettre le pays sur le chemin de la démocratie. Le pape a exprimé cet appel dans son discours annuel au corps diplomatique alors que des dizaines de milliers de personnes ont pris part à une troisième journée de manifestation en Birmanie contre un coup d'état militaire contre le gouvernement officiel du pays il y a une semaine. Devant des diplomates de plus de 180 pays, le pape a fait part de son affection et de sa proximité au peuple birman qu'il a visité en 2017. Le discours du pape devant les diplomates est souvent appelé le discours de l'État mondial parce qu'il discute généralement des conflits et des différends qui surviennent dans le monde. Pas moins de 49 étudiants de plusieurs universités de Ho Chi Minh City au Vietnam ont rejoint le programme de langue indonésienne pour les locuteurs étrangers de l'Université Adi Buwana de Surabaya qui s'est tenu en ligne. Le directeur de l'Université Adi Buwana, Mariano Subandowo, ainsi que le consul général indonésien à Ho Chi Minh City, Hanif Salim, ont officiellement ouvert le programme dimanche. Hanif, dans un communiqué reçu par Antara à Jakarta, a déclaré lundi que le grand intérêt des étudiants vietnamiens à apprendre l'indonésien montre le grand potentiel de l'indonésien dans la région de l'Asie du Sud-Est. Selon lui, le Vietnam a donné une attention sérieuse à l'amélioration de la qualité des ressources humaines, compte tenu de ce pays avait la deuxième plus forte croissance économique d'Asie après la Chine. Ce programme en ligne du BIPA a été suivi par des étudiants dans un certain nombre d'autres pays, dont la Thaïlande, les États-Unis, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne et la Pologne, totalisant 88 participants. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Un sous-marin japonais et un navire privé ont été impliqués dans un incident au large de la côte pacifique lundi. Le secrétaire en chef du cabinet, Katsunobu Kato, a déclaré lors d'une conférence de presse que le sous-marin exploité par les forces de défense maritime et un autre navire avaient eu un incident dans les eaux de la préfecture de Kochi, dans le sud du Japon. Kato, citant une déclaration de l'agence des gardes-côtes, a déclaré qu'il n'y avait pas de dommages aux navires privés. Les autorités japonaises continuent de collecter des informations détaillées telles que le type de navire et les pays dans lesquels il est immatriculé. Les forces de défense maritime ont déclaré que trois membres d'équipage à bord de leur sous-marin avaient subi des blessures mineures et que le mât de sous-marin avait été endommagé, mais qu'il n'avait pas interféré avec sa capacité à continuer à plonger. Le département malaisien des statistiques a rapporté que le nombre de chômeurs dans le pays est passé à 4,8% ou 772 900 personnes en décembre 2020. Le chef du département des statistiques malaisien, Dato' Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, a déclaré lundi à Kuala Lumpur. Selon lui, même si le nombre de nouveaux cas de COVID-19 dépassait une moyenne de 1500 cas par jour à la fin de 2020, l'activité économique est toujours autorisée à fonctionner dans le respect de procédures opérationnelles standard ou SOP strictes. Pour le secteur économique, selon Muhammad Uzir, les résidents qui travaillent dans le secteur des services continuent d'enregistrer une tendance à la hausse, notamment dans les activités de commerce de gros et de détail, la santé humaine et le travail social. Le gouvernement britannique, par le biais de UK Indonesia TEHUB, ouvre l'inscription à Future Female Business School en tant que programme de soutien à 50 femmes entrepreneurs indonésiennes pour accroître leur capacité commerciale. L'ambassadeur britannique en Indonésie et au Timor-Leste, Owen Jenkins, dans un communiqué publié lundi, a déclaré que la pandémie de COVID-19 obligeait les acteurs de nombreux secteurs, y compris les entreprises, à réfléchir de manière créative et à survivre à cette situation. Jenkins a déclaré que depuis sa création en septembre 2019, UK Indonesia TEHUB a été activement impliqué dans le renforcement des capacités et le développement de l'écosystème numérique du pays, en plus de mener des programmes pour encourager la participation des femmes et des groupes marginalisés. Il a ajouté que ce programme fournit aux femmes entrepreneurs indonésiennes les compétences dont elles ont besoin pour développer leur entreprise, afin qu'elles puissent soutenir leurs moyens de subsistance et apporter une plus grande contribution à l'économie indonésienne. Le Bureau de l'immigration indonésienne de classe 1 de TPI Banda Aceh a détenu 18 passeports d'un équipage de bateaux de croisière étrangère Batang Pavilion des îles Caïman, nommé la Datsha, parce que l'entrée sur le territoire indonésien sans autorisation n'incluait pas de lettres sans COVID-19. L'en dit le chef du bureau régional de Aceh, du ministère indonésien des droits et des droits de l'homme, Heni Yuwono à Banda Aceh, a déclaré que le passeport avait été détenu pour une enquête plus approfondie. Les passeports des équipages de navires de croisière retenus se composaient de 9 citoyens britanniques, 4 citoyens néerlandais et un citoyen espagnol, philippin, allemand, canadien et biélorusse. Le capitaine du navire est un ressortissant allemand. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre la commémoration de la journée nationale de la presse. Aujourd'hui, 9 février, le média de toute l'Indonésie célèbre la journée nationale de la presse. Il commémore la création de l'organisation de l'Association des journalistes indonésiens, ou PWI, fondée le 9 février 1946. PWI est né au milieu de la lutte de tous les éléments de la nation, pour défendre l'indépendance de la République d'Indonésie que venait d'être déclarée contre la menace d'un retour au colonialisme. La tâche des journalistes à l'époque était d'élever la conscience nationale pour défendre l'indépendance en plus de leur devoir médiatique. Actuellement, la presse est toujours chargée de garder l'existence de la nation indonésienne en présentant des informations factuelles selon lesquelles le public a le droit de la connaître. De nombreuses menaces pesant sur les performances de la presse indonésienne ont été subies. La presse indonésienne avait fait l'expérience de la retenue voir l'interdiction. Aujourd'hui, à l'ère de l'ouverture sans restriction, l'existence de la presse est également mise à l'épreuve par le progrès des technologies de l'information et de la pandémie de COVID-19. Il existe plusieurs médias grand public qui se sont effondrés ou ont fait faillite. Suara Pembaruan, Indopost et Koran Tempo ont cessé leurs activités cette année. Les trois principaux médias ont ajouté à la longueur de la liste des médias imprimés qui avaient décidé d'arrêter de publier. Certains médias passent aux plateformes numériques. En effet, ce phénomène ne se produit pas seulement en Indonésie, mais aussi dans les pays développés. Ils ont également cessé de fonctionner ou de passer aux plateformes numériques. Ainsi, la question se pose, où une personne cherche-t-elle des informations? Lors de la Convention nationale des médias de masse de la Journée nationale de la presse, ou HPN 2021, tenue lundi 8 février, le ministre de la Communication et de l'Informatique, Johnny Giplet, a affirmé que, sur la base de l'enquête de son ministère l'année dernière, 20% des répondants ont déclaré que les médias sociaux sont un canal d'information de confiance pour le public. Ce chiffre n'est pas petit. Ce phénomène est un défi pour les médias grand public. Les besoins et les demandes du public pour un accès rapide et gratuit à l'information ont également augmenté avec la numérisation. Selon le ministre Johnny Giplet, la presse doit modifier le processus de présentation des rapports pour qu'il soit plus concis et plus efficace. La plateforme numérique ne réduira pas le rôle de la presse en tant que fournisseur d'informations précises et fiables, ainsi que moyen d'éduquer la nation. Les plateformes numériques ont même plus élargi la portée d'un média. Ce qui est important pour la presse, c'est de rester fondée sur l'honnêteté, le professionnalisme et l'impartialité dans la transmission exacte des nouvelles, des informations et des données. Avec cette position, le rôle de la presse en tant que quatrième pouvoir dans la démocratie ne sera remplacé par aucun média social. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Chers auditeurs, bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui et on commence avec l'événement du 9 février 1946, l'Association des juristes indonésiens est fondée. Le 9 février 1946, à l'initiative de plusieurs journalistes indonésiens, un congrès des journalistes se tient à Solo. Les participants au congrès ont convenu de créer une organisation appelée Association des journalistes indonésiens ou PWI. Le but de l'organisation est d'unir tous les journalistes et tout leur potentiel. Okur du Congrès, sumanang a été élu premier président de l'Association des Jeunes Indonésiens. En 1985, par décret présidentiel numéro 5 de 1985, l'anniversaire de l'Association des journalistes indonésiens est officiellement devenu la Journée nationale de la presse. L'autre information est sur le massacre des civils à Zhoushan, Corée du Sud, le 9 février 1951. Le massacre des civils de Zhoushan a été perpétré par le 3e bataillon du 9e régiment de la 11e division de l'armée sud-coréenne entre le 9 et le 11 février 1951. Le massacre a été perpétré contre 719 citoyens non armés qui seraient des sympathisants communistes à Zhoushan, Zhongshan, Corée du Sud. Les victimes comprenaient 385 enfants. Cet incident s'est produit pendant la guerre de Corée. Chers auditeurs, on termine l'histoire aujourd'hui avec l'événement du 9 février 2001. Le sous-marin américain USS Greenville s'est écrasé sur un navire civil au Japon. Le 9 février 2001, le sous-marin américain USS Greenville s'est accidentellement écrasé et a coulé le navire de formation de l'école de pêche japonaise Ehimaku à 16 km au large de la côte d'Oahu. À la suite de cette collision, 9 des 35 passagers du navire japonais, dont 4 étudiants, ont été tués. Une enquête a révélé que l'accident était dû à une mauvaise détection du sonar, à une utilisation inefficace du périscope par le capitaine de sous-marin, le commandant Scott Weddle, à une mauvaise communication entre l'équipage et à des perturbations causées par la présence de 16 invités civils à bord du sous-marin. Chers auditeurs, c'est l'histoire aujourd'hui pour ce soir.
Sendiri.
chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter le programme Mon Indonésie intitulé « L'Indonésie inaugure le bureau de la communauté des jeunes exportateurs indonésiens et des magasins des produits indonésiens en Turquie ». Chers amis, l'opportunité d'exporter des produits indonésiens vers la Turquie s'agrandit avec la création de la boutique botanique biologique et l'inauguration du secrétariat de la communauté turque indonésienne des jeunes exportateurs, KEMI. Organic Botanique fournit des épices indonésiennes, des aliments secs et des fruits tropicaux, en plus des produits turcs similaires. La boutique propose également une variété d'ingrédients alimentaires locaux comme stratégie commerciale pour attirer les acheteurs locaux et présenter les produits indonésiens aux Turcs et aux autres étrangers. Comme cité sur la page kemlu.go.id, 6 février, KEMI Turquie avec ses plantes biologiques veut participer à l'avancement des micro, petites et moyennes entreprises indonésiennes, MPME. La MPME, en tant que moteur de l'économie nationale et l'absorbant la main-d'œuvre indonésienne, doivent continuer à bouger en renforçant les solutions d'innovation, de simulation et d'atténuation et pleine pandémie. Le consul général de la République d'Indonésie à Istanbul, Imam Asari, qui a inauguré l'ouverture de la boutique de botanique biologique, a soutenu la naissance de la botanique biologique qui a débuté avec la réunion du KEMI Turquie avec le consul général Asari en août 2020. Le consul général Asari a invité la diaspora indonésienne à Istanbul à travailler ensemble et à établir des relations actives entre les entrepreneurs indonésiens et les partenaires potentiels en Turquie. Le consulat général d'Indonésie à Istanbul a ensuite facilité la participation de KEMI Turquie au salon Musiad Expo à Istanbul du 18 au 21 novembre 2020, auquel ont également participé 30 MPME d'Indonésie. KEMI Turquie est également encouragé à aller de l'avant en ouvrant des points de vente indonésiens à Istanbul et Organic Botanique est la réponse. Et les étapes concrètes pour KEMI Turquie dans un délai assez court. Un autre organique botanique devrait être en mesure de créer un esprit d'entreprise dans la diaspora indonésienne en Turquie grâce à la création d'autres magasins de distribution indonésiens sur ces deux continents. La Turquie n'est pas seulement la destination finale des produits indonésiens, y compris les produits des MPME, mais aussi comme centre d'entrée des produits indonésiens en Europe, au Moyen-Orient et en Asie centrale. Pendant ce temps, l'enthousiasme des entrepreneurs indonésiens des MPME qui sont présents pour commercialiser leurs produits en Turquie se reflète également dans les nombreux intérêts de commercialiser leurs produits en Turquie. Certains des articles qui veulent être commercialisés comprennent les nids d'hirondelles, l'artisanat, les accessoires et la mode, ainsi que des épices telles que le poivre blanc et les produits au gingembre. Jusqu'à présent, ce qui est devenu un obstacle pour eux, c'est le manque d'informations sur les exigences, les permis et les normes applicables aux marchandises qui méritent d'être exportées vers la Turquie. Le bureau du secrétariat de KEMI Turquie, avec le soutien de l'ambassade d'Indonésie à Ankara et du consulat d'Indonésie à Istanbul, devrait être l'un des canaux d'information pour les militants des MPME en Indonésie qui souhaitent commercialiser leurs produits en Turquie. Cet effort devrait également être soutenu par l'achèvement
immédiat de l'accord de partenariat économique global Indonésie-Turquie, ITCPA, qui est actuellement négocié par les gouvernements des deux pays. La mise en œuvre de l'ITCPA permettra ultérieurement de réduire les tarifs d'importation. Les tarifs d'importation et d'éliminer d'autres barrières non tarifaires à l'entrée des produits indonésiens et turcs. Bonjour, Jutar, c'est tout le programme en Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Semua kebaikan untuk sesama.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie.
de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter un magazine culturel intitulé Dumbek Cuisine Traditionnelle du Rembang, Java Central. Dumbek est un aliment traditionnel de Rembang dans le centre de Java, qui a la forme d'une spirale ou d'une trompette. Dumbek est fabriqué à partir d'un mélange de sucre de palme, de lait de coco, de farine de tapioca et de farine de riz gluant qui est ensuite enveloppée dans des feuilles de palmier du Siwalan. C'est savoureux et sucré. Cette nourriture est largement vendue sur les marchés traditionnels de Rembang. Selon les résidents locaux, Dumbek existe depuis des centaines d'années. Cette délicieuse nourriture est toujours disponible à chaque événement important pour recevoir des invités, en particulier l'événement de l'Aumône de la Terre, qui est une cérémonie pour remercier le Créateur d'avoir donné une bonne et abondante récolte. Dumbek peut également être trouvé dans des zones de la côte nord de Java, tels que Lasem, Pati, Blora et Kudus. Selon l'histoire de cette nourriture Dumbek, au 15e et 16e siècle, la côte nord de l'île de Java est devenue l'une des cibles de la dakwah du Wali, qui est le nom de propagateur de l'islam, notamment à Java, parce que la région de Pantura est très stratégique en tant que centre commercial et route maritime pour la diplomatie internationale. Selon l'histoire, Dumbek est une collation préférée des gardiens. Maintenant, Dumbek est souvent un régal pour les invités qui viennent. En dehors de la côte nord de Java, Dumbek est également connu sous le nom de Chlorot, mais il n'est pas enveloppé dans des feuilles de palmier, mais utilise des feuilles de cocotier. Pour les amateurs de cuisine, il est facile d'acheter le Dumbek au Chlorot, en plus des marchés traditionnels. C'est aussi dans les pâtisseries, et le prix environ 5 000 jusqu'à 10 000 de rupiah. Bien que le Dumbek ne puisse pas durer trop longtemps, il peut également être utilisé comme souvenir, parce qu'en dehors de réfrigérateur, il peut durer de 2 jusqu'à 3 jours, tandis que s'il est mis au réfrigérateur, il peut durer jusqu'à 4 à 5 jours. Si vous êtes dans le centre de Java ou Jepara, notamment goûtez cette collation de Dumbek. Chers amis, c'est le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Thank you.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. C'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère indonésien, de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi Audrey, le sujet d'aujourd'hui est « Apakah kamu melihat Bu Ayu ?»« Apakah kamu melihat Bu Ayu ?» En français, « As-tu vu Madame Ayu ?» Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé « Apakah kamu melihat Bu Ayu ?» Apakah kamu melihat Bu Ayu? En français, as-tu vu Madame Ayu? La situation est, à ce moment-là, Kevin sort chez Madame Ayu. Il a demandé à sa collègue Mela. Bonne écoute.
Apakah kamu melihat Bu Ayu?
Ya, beliau ada di ruang rapat.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Apakah kamu melihat Bu Ayu? Apakah kamu melihat Bu Ayu? En français, as-tu vu Madame Ayu? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Et puis, vous pouvez me répéter. Apakah kamu melihat? Apakah kamu melihat? En français, est-ce que tu as vu? Apakah kamu melihat Bu Ayu? Apakah kamu melihat Bu Ayu? En français, est-ce que tu as vu Madame Ayu? Buku saya. Buku saya. En français, mon livre. Ponsel saya. Ponsel saya. En français, mon portable. Chers amis, dans la conversation, vous entendez des questions. Apakah kamu melihat Bu Ayu? Apakah kamu melihat Bu Ayu? En français, as-tu Madame Ayu? Lorsque vous chercherez quelqu'un, vous pouvez utiliser une phrase « Apakah anda melihat ?»« Apakah anda melihat ?» En français « Avez-vous vu ?» Puis suivi du nom de la personne que vous recherchez. Par exemple « Apakah anda melihat Bu Ayu ?»« Apakah anda melihat Bu Ayu ?»« Avez-vous vu Madame Ayu ?» Un autre exemple, pour rechercher quelque chose ou un élément, vous pouvez également utiliser la même question. Écoutons une conversation sur la recherche de quelque chose. Par exemple, Apakah kamu melihat buku saya? Apakah kamu melihat buku saya? En français, as-tu vu mon livre? Apakah kamu melihat ponsel saya? Apakah kamu melihat ponsel saya? As-tu vu mon téléphone portable? Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Apakah kamu melihat Bu Ayu?
Ya, beliau ada di ruang rapat.
Mon cher auditeur, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour ce soir. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Terpaku rasaku telah temukan. Siapakah kau gerangan wanita pujaan?
Amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Voici le magazine musical et cette fois-ci, nous vous présentons une chanson malaise intitulée Gala Herang, chantée par Ferdi Maulana. Créée par Gusti Lamudat, Tommy et Eddie Mawardi, Gala Herang est une chanson malaise de la région Mempawah, Kalimantan de l'Ouest. Cette chanson raconte d'un commandant Franggang de Mempawah qui est toujours tenu sa promesse. Quoi qu'il arrive, il tiendra sa promesse. La musique de cette chanson est à tempo moyen. Jusqu'à présent, la chanson Gala Herang a été chantée et arrangée à plusieurs reprises avec différentes versions. Bien, chers auditeurs, voici Gala Herang de Ferdi Maulana. Bonne écoute.
Thank you.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiceindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.